sont donc arrivés à la question 46 du commencement de la durée des créatures. Nous allons nous arrêter là, si vous voulez, dans la tude de saint Thomas, et puis nous allons revenir au point de départ pour réfléchir alors sur le problème proprement de théologie naturelle sur la création. Saint Thomas, lui, se place en théologie à partir de la révélation. Bien comprendre. Et c'est toujours le même problème que nous nous posons. Quand le théologien, comme saint Thomas, traite certaines questions que le philosophe peut traiter, quelle différence y a-t-il entre la théologie à partir de la foi et la théologie naturelle, c'est-à-dire la sagesse philosophique? La sagesse philosophique commence avec la découverte de l'existence de Dieu. C'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'il y a une différence entre le point de vue de la métaphysique, qui comme telle n'est pas sagesse, elle est une analyse scientifique, dans le mot épistémé aristotélicien, et le point de vue de la sagesse. La sagesse est elle aussi science, mais pas de la même façon. Et ça, c'est un très gros problème au point de vue critique. C'est un problème très intéressant, du reste. Dans quelle mesure la sagesse est-elle une science? C'est sûr que la connaissance scientifique pour Aristote et pour saint Thomas, c'est la seule connaissance parfaite. Tant qu'on n'est pas arrivé à une connaissance scientifique, on reste dans l'ordre de l'opinion. Et la découverte des principes n'est pas une connaissance parfaite. C'est une connaissance indispensable, extrêmement importante, mais ce n'est pas parfait. Mais c'est comme si vous faisiez une ascension. Parce qu'au fond, la découverte des principes, c'est ça, c'est une ascension. Il suffit de faire l'ascension. Ah non. Quand vous avez fait l'ascension, mais vous regardez autour de vous, vous essayez de voir un peu pourquoi vous êtes arrivé à ce sommet. Ce n'est pas celui qui ferait ça uniquement au point de vue sportif, dans un ascension, et puis après, moi, je redégringole immédiatement. Quelque chose d'humain qui n'est pas fait. N'est-ce pas, si vous faites une ascension, c'est quand même ou pour aller voir le lever de soleil à telle hauteur, avoir cette vision qu'on n'a pas, et ainsi de suite. C'est la même chose au point de vue philosophique. La découverte des principes, c'est un moment de la connaissance philosophique, mais la connaissance philosophique n'est parfaite que lorsque j'utilise les principes, j'use des principes pour connaître la réalité dans son épanouissement plénier, c'est-à-dire dans sa propriété. La connaissance scientifique est la seule connaissance parfaite. Ça, c'est très important de se rappeler ça. Quand il s'agit de la sagesse a ceci de particulier, c'est que cette connaissance reste une connaissance scientifique, mais une connaissance scientifique qui aboutit à la contemplation. Le propre de la sagesse, l'habitus contemplativus, je veux dire, le propre de la sagesse, c'est un habitus contemplatif. C'est un habitus qui me permet de contempler. Mais la sagesse demeure une science. Elle a la perfection d'une science. Et même, elle l'a éminemment. Je crois que c'est ce qu'il faut dire par rapport à la sagesse, c'est qu'elle est éminemment science. Parce qu'elle touche les premiers principes et ce qu'il y a d'ultime, ce qu'il y a de dernier. Tandis que La science n'est pas ce qu'est le dernier. Vous voyez, la philosophie, la philosophie première, dans sa première partie, est une science. Elle analyse. Elle est en vue de la découverte de l'être premier. Et une fois qu'elle découvre l'être premier, il y a quelque chose de nouveau. Il y a tout un champ nouveau qui s'ouvre devant nous, et ce sera le point de vue de la sagesse. Parce que la sagesse fait toucher la réalité ultime, au-delà de quoi je ne peux pas aller. Quelque chose d'ultime, quelque chose de dernier. Cette sagesse philosophique est l'ultime moment de la recherche scientifique, de la recherche humaine. Et c'est cette sagesse dont se sert le théologien pour réaliser une nouvelle sagesse, qui est sa sagesse théologique. Je crois qu'on peut bien discerner ce que saint Thomas nous demande de discerner au début de la somme. Les trois sagesses. Et il faut tout le temps venir à cela. Pas si commode que ça, hein, de bien les discerner. La sagesse philosophique, la sagesse théologique acquise, la sagesse mystique, don du Saint-Esprit. Il y a trois contemplations différentes. Et il y a trois sagesses différentes. Vous voyez que la sagesse, donc, du Saint-Esprit n'est plus une science. La sagesse théologique à partir de la foi est une science. Question première de la somme théologique de Saint-Thomas. La théologie est-elle une science? Pas commode, tu restes de bien répondre, mais au fond, Saint-Thomas répond que c'est une science. Il répond que c'est une science, il répond que c'est une sagesse. Et puis, la philosophie est une science et une sagesse. Elle est les deux. Mais il ne faut pas opposer science et sagesse. Il faut comprendre que la sagesse intègre la science, assume la science, dans un mode imminent. Alors, il y a des problèmes qui sont traités en théologie s'appuyant sur la foi et des problèmes, les mêmes problèmes qui sont traités en théologie naturelle. C'est du reste très intéressant à voir ça en théologie philosophique. C'est très intéressant de voir ça parce qu'alors là, on touche vraiment les deux sagesses qui matériellement traitent la même chose. Et qui formellement les traite différemment. Et donc c'est là où l'affrontement est le plus net. Alors vous avez le problème de l'existence de Dieu, le problème des manières d'exister de Dieu, le problème de la création. Alors, si vous voulez, on va essayer de voir comment au plan philosophie, au plan sagesse philosophique, se pose le problème de la création. Et nous regarderons par rapport à l'ordre de saint Thomas pour comprendre la différence des deux ordres. Le propre du sage, c'est d'ordonner. Le propre du sage, c'est de contempler et d'ordonner. En contemplant, il ordonne. L'ordre est un fruit de la contemplation. Et c'est dans l'ordre que je retrouve un ordre scientifique. Un ordre de sagesse, mais qui est scientifique, c'est-à-dire qui peut à chaque instant se légitimer. Et qui doit à chaque instant être justifié. Mais il y a un ordre aussi de la sagesse dont du Saint-Esprit. Il y a un ordre. La sagesse, don du Saint-Esprit, ordonne l'exercice l'ordonne pas d'une manière scientifique. Il l'ordonne avec, sous le sceau de l'Esprit Saint. Ça, c'est la différence. Et là, je crois qu'il faut être très très net là-dessus, pour bien comprendre. Il faudrait se poser la question, est-ce que c'est le propre de la théologie mystique de reprendre cet ordre de l'Esprit Saint pour essayer de comprendre le comment. Parce que je crois qu'il y a à l'intérieur même de la sagesse théologique une partie de la sagesse théologique qui va rejoindre la sagesse mystique. Vous voyez, si je mets un peu cet ordre-là, réfléchir sur ces choses qui sont difficiles, hein, parce que ce serait, je vous ai déjà dit, ce serait tout le livre des degrés du savoir de Maritain qu'il faudrait reprendre dans cette lumière-là, et qui serait très intéressant à reprendre de cette manière. Vous avez la philosophie première. La philosophie première implique une première, un premier aspect d'ordre de l'analyse scientifique, la découverte des principes propres. Puis, à un moment donné, vous découvrez ce que représente la théologie naturelle et sa sagesse. Il ne faut pas dire que la métaphysique, ce qu'on appelle la métaphysique, c'est-à-dire cette partie d'analyse et de découverte des principes propres, est une sagesse au sens absolu. C'est lorsque je découvre l'être premier, je peux dire, je suis là en face d'une sagesse. Et à partir de là, on peut ordonner. Il y a deux ordres. Il y a l'ordre de la partie proprement scientifique, ce que nous voyons ordinairement quand on fait la philosophie première. Cette seconde partie, elle est toujours escamotée. On n'a pas le temps. Alors elle est escamotée, on n'en parle pas, c'est présupposé. C'est pour ça que quelquefois, on ne voit plus très bien ce que c'est. Donc premièrement, philosophie première. Deuxièmement, vous avez la théologie, vous avez comme ça ici, la théologie à partir de la foi. La théologie dans la lumière de la foi qui se développe, qui est sagesse, qui est science. Et ça, c'est mal dit explicitement. Elle est acquise. La foi est infuse, mais la théologie est acquise. J'ai un habitus scientifique. Eh bien, cette théologie va, de fait, traiter de certains sujets, certaines matières, si vous voulez, matières scientifiques, qui nous sont, de fait, communes avec la théologie naturelle. L'existence de Dieu, manière d'être de Dieu. Et en théologie, sous la lumière de la foi, je parle tout de suite de Dieu. Tandis qu'au contraire, ici, je parle toujours de l'être premier que nous appelons Dieu selon les traditions religieuses ou selon la foi. Le théologien, en tant que théologien qui s'appuie sur la foi, peut parler tout de suite de Dieu. C'est-à-dire, c'est son domaine propre. Tandis que le philosophe, lui, parle de la découverte de l'être premier, la découverte d'un être ultime, d'un être acte pur, que nous appelons Dieu. Il ne le dénomme pas, lui. Il le découvre. C'est tout à fait la différence. Je découvre l'existence d'un être premier, que nous appelons Dieu. Tandis que le théologien, lui, le théologien qui s'appuie sur la foi parle immédiatement de l'existence de Dieu, de la manière d'exister de Dieu, de la création, du gouvernement divin, de la providence. Donc ces sujets-là, dira commun avec la théologie naturelle, on pourra les appeler les préambula fidei. Ça, c'est très curieux. On peut les appeler les préambula fidei. Ils sont présupposés à la théologie et ils sont repris par la théologie. Donc, on peut les traiter de deux façons différentes. Vous les traitez dans la
de l'intelligence, vous les traitez dans l'avenir de la foi.
Donc, formellement, c'est traité tout à fait différemment. Et c'est ce qui va nous intéresser ici,
c'est d'essayer de comprendre la manière, ce que nous avons vu, la manière dont saint Thomas, en théologie scientifique, traite de la création, la manière dont, ici, on va traiter de la création. Que vous situez bien. Bon, je vais troisièmement, troisième aspect, le point de vue de la sagesse infuse. Don du Saint-Esprit. Sagesse.
Donc il est infus, cette sagesse, elle n'implique aucun. On ne peut pas dire qu'elle est scientifique, elle est au-delà. Mais n'y a-t-il pas, et c'est là la grosse question, n'y a-t-il pas entre cette sagesse infuse, donc du Saint-Esprit, qui me met dans une connaturalité profonde avec le mystère de Dieu amour? Donc tout un aspect nouveau d'expérience qui m'est donné grâce à cette sagesse infuse donc, du Saint-Esprit. N'y a-t-il pas alors pour le théologien un nouveau développement qui sera cette vie mystique? Compreniez. Il y a donc dans la théologie scientifique telle que saint Thomas la donne une partie commune avec la philosophie première, donc avec la recherche philosophique, et il y a dans le développement de la théologie acquise une partie qui va s'appuyer sur la sagesse infuse du Saint-Esprit. Grâce à la sagesse du Saint-Esprit, il y a un développement particulier d'une théologie qu'on pourrait appeler théologie mystique. Mais les liens entre la théologie scientifique et la théologie mystique sont très difficiles à bien saisir. C'est pas commode du tout. Et on verra des diversités très grandes pour essayer de préciser. Mais ce qui m'intéresse ici, et c'est ça que je voulais vous souligner, c'est que cette théologie mystique n'est pas la vie mystique, hein. N'est pas donc la vie du don de l'Esprit Saint, du don de sagesse. L'homme, le chrétien qui vit du don de sagesse, il reste dans le silence de sa contemplation. S'il est théologien et qu'il veut le transmettre aux autres, bon, il comprendra que sa théologie scientifique, à la manière de saint Thomas, demande quelque chose de nouveau. Une théologie mystique qui n'est ni l'exercice divin du don de sagesse, ni la théologie scientifique, qui est quelque chose de particulier. Et cette théologie mystique est-elle encore scientifique ou n'est-elle plus scientifique? Elle est une théologie mystique symbolique. C'est ce que je crois. Je crois que la théologie mystique n'est plus scientifique. Alors, elle reste sagesse, c'est sûr, elle reste sagesse, mais sous un mode nouveau qui est un mode symbolique. Parce que elle regarde immédiatement notre union avec Dieu, notre union d'amour avec Dieu, cette connaturalité que l'homme peut avoir grâce au don du Saint-Esprit, et spécialement au don de sagesse. Elle va donc traiter cette connaturalité de l'homme transformé par la grâce, transformé par la charité avec Dieu. Et elle ne peut pas analyser cette connaturalité. L'amour ne s'analyse plus. L'amour est un au-delà de la sagesse, vous voyez, est un au-delà de la science. penser à ce que saint Thomas nous dit quand il parle du bien et des rapports du bien et de l'être. Saint Thomas nous dit que l'être est premier, secundum rationem. L'être est premier selon son intelligibilité. Et le bien est premier du côté de la causalité. Parce que c'est la causalité finale. Et donc il y a dans le bien quelque chose d'irréductible à l'être. Ça que nous avons beaucoup de peine à comprendre, hein, et qui est très important pour éviter la cérébralisation, pour éviter le rationalisme. Je crois qu'on ne peut plus être rationaliste, et le rationalisme est une forme du positivisme. On ne peut plus être rationaliste une fois qu'on a compris que le bien avait quelque chose qui dépassait l'être, dans l'ordre de la causalité finale. Le bien va connaître un dépassement à l'égard de l'être dans l'ordre de la causalité finale. Et dans l'ordre de la causalité finale, le bien est saisi en l'aimant. C'est en aimant le bien que je saisis que le bien est quelque chose d'irréductible par rapport à l'être. D'où nécessité de comprendre le point de vue pratique distinct du point de vue spéculatif. Le point de vue pratique a toujours quelque chose d'irréductible par rapport au point de vue spéculatif. Or, si la foi ne transforme pas mon conditionnement humain de connaître, la foi est à la fois spéculative et pratique. Mais dans son développement théologique, il faut donc qu'elle se développe différemment du côté spéculatif, du côté pratique. Vous aurez donc nécessairement deux développements de la foi, un développement de théologie scientifique, c'est l'intelligibilité de la révélation de la parole de Dieu qui est développée en premier lieu. Et de l'autre côté, c'est une théologie pratique, au sens éminent, éminemment pratique, c'est-à-dire au sens de l'amour divin. C'est une théologie pratique qui sera la théologie mystique, où je développerai en premier lieu cet aspect pratique de l'amour divin qui m'est communiqué. Vous voyez, autrement dit, prenez l'analogie pour mieux comprendre ça, parce que c'est difficile et c'est des problèmes sur lesquels il faut tout le temps revenir pour essayer d'éclairer un peu. Parce que ça reste quelque chose qui n'est pas très 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 lumineux, hein, qui est difficile à bien saisir. Les rapports entre philosophie première et éthique, c'est que c'est capital de voir ces rapports. La philosophie première reste une connaissance spéculative, la connaissance spéculative la plus parfaite comme connaissance spéculative. Et l'éthique reste une connaissance pratique. La philosophie première regarde ce qui est du point de vue de l'être. Et l'éthique regarde le bien humain. Pas n'importe quel bien, mais le bien humain. C'est-à-dire le bien qui est capable de donner à l'homme le bonheur. Pas n'importe quel bien qui me donne le bonheur. C'est un bien que l'homme est capable d'atteindre. C'est celui-là qui me procure le bonheur. Et donc c'est l'homme heureux que regarde l'éthique. Vous voyez que cette distinction qui est très importante, qui fait partie de la structure de mon intelligence humaine. Je voudrais bien qu'il n'y ait pas cette distinction entre le point de vue spéculatif et le point de vue pratique. Ça, nous avons tous cette espèce de nostalgie de faire que le point de vue spéculatif et le point de vue pratique s'identifient, c'est tellement plus agréable, de faire que l'être et le bien soient saisis de la même façon.
que tout ce qui est bien soit être immédiatement saisi, qu'il n'y ait pas de distinction entre les deux. Ce serait très étonnant de pouvoir faire cette distinction, de pouvoir supprimer cette distinction. Je crois que ça, c'est le platonisme, hein. C'est l'idéalisme qui fait ça. Et tout idéalisme fait ça. Et le sens pratique, et une philosophie pratique me montre la distance qui existe entre l'être et le bien. Et que je ne peux pas ramener le bien saisi d'une manière pratique, c'est-à-dire saisi comme bien, saisi comme ce qui me finalise, comme ce qui exerce sur moi la causalité finale, donc me finalise ce que j'aime. C'est le bien que j'aime, c'est pas l'être. Vous avez aimé l'être, hein. Vous voyez comme ça vous nourrit bien. Non, on ne peut pas aimer l'être. On aime la vérité, et parce qu'on aime la vérité, on recherche l'être. C'est parce qu'on aime la vérité. Alors on va aller jusqu'au bout dans la recherche de la vérité. Je ne peux pas avoir d'amour pour l'être. Non, c'est impossible. Le bien, on l'aime. Alors, il y a une différence entre les deux qui montre que toute la connaissance pratique dans l'ordre de l'amour, cette connaissance aimante, connaissance qui est à l'intérieur même d'un amour, est une structure tout à fait différente que la structure de la connaissance spéculative. Eh bien, je crois qu'on retrouve quelque chose d'analogue, comprenez bien, je transpose, au niveau de la théologie scientifique et au niveau de la théologie mystique. Au niveau de la théologie, la théologie scientifique est l'analogue de la philosophie première, et la théologie mystique est l'analogue de l'éthique. Et là, je comprends que les deux se tiennent, et donc sont inséparables. Je ne peux pas, même au niveau de la foi, qui pourtant les unit, parce que la foi est à la fois pratique et spéculative, mais dès que je développe la foi, selon mon conditionnement humain, je suis obligé de le développer de deux façons différentes. Théologie spéculative, théologie mystique. Ça ne peut pas être autrement. Il y a là quelque chose qui dit tout simplement le fait que la foi n'est pas encore la vision béatifique. Dans la vision béatifique, il n'y aura pas la dualité. Dans le don de sagesse, il n'y a pas la dualité. Le don de sagesse est éminemment pratique, mais il n'est pas spéculatif. Il est éminemment pratique, il est dans l'ordre de l'amour. Et dès que je veux expliciter toute l'intelligibilité de la foi, je ne peux pas l'expliciter en dehors de la philosophie spéculative. Et il faut essayer de comprendre ce qu'on représente cette théologie mystique. C'est pour ça que la théologie mystique, vous voyez, se sert de la matière, si j'ose dire, que me donne le don de sagesse de l'Esprit Saint, pour essayer de donner un ordre à l'intérieur de cet amour vécu, à l'intérieur de ce que me fait vivre dans le don de sagesse. Et c'est pour ça que s'il n'y a aucune expérience mystique, il y aura une difficulté énorme de développer ce que représente l'intelligence mystique. Et l'intelligence mystique n'est pas le vécu du don de sagesse. C'est autre chose. Alors, complète ce que je dis ici. J'ai vu tout à l'heure la différence entre science et sagesse. Et ça, je crois que c'est une autre distinction très importante à faire. Donc, deux distinctions très importantes à faire, si on veut comprendre un peu la recherche que nous allons faire. La différence entre la connaissance spéculative et la connaissance pratique, et la différence entre la science et la sagesse. Distinction qu'Aristote a donnée, distinction que saint Augustin a pris d'une autre manière, tout à fait, et que saint Bonaventure reprend encore d'une autre manière. Parce que je crois que pour saint Bonaventure, la sagesse ne peut pas être une science. La sagesse n'est que don du Saint-Esprit, c'est tout. Au niveau sagesse, vous l'écrivez. Vous ne pouvez plus du tout avoir une connaissance scientifique. Ça, c'est un très gros problème, parce que dans quelle mesure nous retrouvons à l'intérieur de la sagesse le point de vue de la science. Alors, comprenez bien, cette distinction, elle va se retrouver ici et ici. Il y a une science pratique
ce qu'il y a une philosophie pratique. Et il y a une science spéculative. Évidemment, la science spéculative, c'est plus facile à comprendre que la science pratique. C'est bien que Marita là-dessus patauge un peu, non ? C'est pratico-pratique, spéculative-pratique. On ne sait plus très bien, tu vois ? On ne sait plus très bien. Il faut tout simplement comprendre qu'il y a une science au niveau spéculatif et une science au niveau pratique. L'éthique est philosophique. L'éthique d'Aristote est philosophique. Elle implique toute une analyse philosophique. Elle est science. Mais cette philosophie première, elle va aboutir à la sagesse. Dans la mesure où je découvre quelque chose d'ultime. Alors, est-ce que j'ai une sagesse pratique ? Vous voyez, c'est là l'intérêt de savoir si, au fond, je peux dire que la sagesse est à la fois spéculative et pratique, du moins. Elle est d'une part spéculative, d'autre part pratique. Alors, y a-t-il une distinction entre les deux ? Ou est-ce qu'au fond, les deux aboutissent à une unique sagesse. Vous voyez, la sagesse, autrement dit, la philosophie première devenant sagesse, est éminemment pratique. C'est une chose très curieuse qu'Aristote a découvert, et qu'il nous donne, que c'est dans l'éthique qu'il nous donne le traité de la contemplation. Traité de la contemplation, c'est plus la science. C'est quelque chose d'autre, parce que ça touche l'ultime, quelque chose d'ultime. Et il nous donne un traité de la contemplation. Il décrit et il essaie d'analyser ce que c'est la contemplation pour l'homme. Et donc, à ce moment-là, on est bien à un niveau de sagesse pratique. C'est l'activité propre de l'homme qui s'épanouit pleinement et totalement dans une activité contemplative. Et donc là, on n'est plus au niveau d'une analyse scientifique, on est au niveau d'un regard de sagesse. Et il y a la même chose au niveau proprement spéculatif. Donc vous avez cette chose curieuse, parce que ça, c'est pas explicité dans un instant. Pas explicité, on ne peut pas dire que c'est explicité. Aristote simplement parle de la science et de la sagesse. Il parle des deux. Et il dit qu'il y a sagesse quand on touche justement ce qu'il y a d'ultime, les principes premiers et les causes ultimes. Alors, on est en face de la sagesse. Mais que le mode propre de l'intelligence humaine est toujours d'analyser. C'est toujours scientifique. La science est au niveau de mon conditionnement humain. Et la sagesse est au niveau de ma finalité. C'est mon intelligence, dans ce qu'elle a de plus elle-même, qui peut atteindre la sagesse. Tandis qu'au contraire, le point de vue de la raison, c'est mon conditionnement humain. Or, le conditionnement humain coexiste avec tout le développement de l'intelligence. Je ne peux pas, à un moment donné, dire, mon conditionnement humain, allez, tais-toi maintenant, j'arrête. Et puis, soyons avec des ailes et devenons platoniciens. Alors à ce moment-là, c'est la sagesse qui dominerait pleinement et qui laisserait tomber le conditionnement. C'est comme dans les lancements de fusées, il y a un moment donné où une partie qui dégringole et puis ça continue. Alors au fond, il y aura comme ça. Il y aura un moment donné où j'abandonne tout mon conditionnement humain scientifique, tout ça, c'est de la science. Moi, je veux la sagesse. Saint Bonaventure fait ça. Ça, c'est la faiblesse de Saint Bonaventure. Saint Bonaventure fait ça. À un moment donné, c'est l'amour, la connaissance affective qui l'emporte. Il n'y a plus que la connaissance affective, je suis dans la sagesse. Vous ne comprenez pas ça maintenant, vous êtes à un niveau scientifique. Donc vous n'y comprenez rien du tout. Vous êtes à un niveau scientifique, vous êtes certes. Moi, je suis au niveau de la sagesse. Alors, étant donné que je suis au niveau de la sagesse, maintenant, on ne parle plus le même langage. Il y a une coupure entre les deux. Il y a une séparation entre les deux. C'est très tentant de faire ça. C'est très très tentant parce que c'est quand on regarde dans Saint Thomas, donc, ratio
est avec tous. Distinction bien connue. C'est une distinction, ce n'est pas une séparation. Je ne peux pas dire que la ratio, alors, elle, c'est la science, intellectus, la sagesse. Alors, dans quelle mesure puis-je faire un parallélisme comme ça? Il est bien évident que la sagesse est au niveau de l'intellectus. S'il n'y avait pas l'intellectus, il n'y aurait jamais de sagesse. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas intelligents ne peuvent jamais être des sages. Ceux qui ne font que raisonner ne sont jamais des sages. Ils raisonnent tout le temps. Alors ils sont au niveau de la ratio. Tandis que l'intellectus, dans ce qu'il a de plus profond, l'intellectus rejoint la sagesse. Vous voyez, le point de vue du jugement, le discernement, la sagesse est dans le jugement. Dans l'au-delà du raisonnement. Mais n'oublions pas que ce conditionnement humain demeure toujours. Je ne peux pas dire, alors, est-ce que la sagesse implique la science, ou est-ce que la sagesse est uniquement le dépassement de la science? Posez-vous la question. Il faut se poser la question, mais ce n'est pas commode. Pas commode de bien comprendre cela. Alors vous voyez que tout de suite, hein, donc, science, sagesse, ratio, intellectus, philosophie première, éthique. Je vais extraire toutes ces diverses distinctions pour comprendre ce que nous connaissons ces distinctions. Comment les rapprocher les unes des autres? C'est là la difficulté. Comme toujours, parce que c'est ces distinctions qui sont à des plans différents, qui sont des distinctions capitales, très importantes. Distinguer la connaissance pratique de la connaissance spéculative, c'est capital de faire cette distinction-là. Distinguer le point de vue de la science et de la sagesse, c'est capital. Distinguer ratio et intellectus, c'est capital. Ce sont trois distinctions qu'on ne peut absolument pas abandonner. Mais comment les comprendre les unes par rapport aux autres? Oui, c'est ça la difficulté. Comment les comprendre les unes par rapport aux autres? Puis-je dire que ces distinctions vont se retrouver à l'intérieur de chacune des parties? La partie la plus concrète, si j'ose dire, c'est évidemment philosophie première et éthique. Alors, est-ce que cette distinction-là va se retrouver entièrement là-dedans dans les deux parties? Du côté spéculatif, du côté pratique. Est-ce que la distinction ratio-intellectus, qui est fondamentale, qui est la distinction la plus fondamentale, va se retrouver toujours à travers tous les autres. Ordinairement, une distinction fondamentale se retrouve à travers tous les autres. C'est normal et fondamental. Ratio intellectus. Puis-je avoir une intelligence qui se développe d'une manière contemplative sans le point de vue de la ratio? Autrement dit, d'un langage platonicien, est-ce que les ailes du nous peuvent se développer à un moment donné en abandonnant les roues? Hein, c'est exactement ça, ça décolle. Alors il y a les roues rentrent à l'intérieur, et puis on n'a plus besoin, parce que ça va décoller. Alors les roues sont rentrées à l'intérieur, donc tout le raisonnement est rentré à l'intérieur, je ne m'en occupe plus, je plane, et je vole, et je suis au niveau contemplation. L'intellectus qui se développe au niveau de la sagesse, sagesse contemplative. Où est-ce qu'au fond, tout le temps, la science va se développer à l'intérieur? Alors c'est là la grosse question, et c'est très difficile à répondre. C'est pas commode du tout, parce qu'ordinairement, on voit tout simplement ces distinctions-là, puis on ne les pousse pas plus. C'est important de savoir si le développement de la sagesse par rapport à la science est un développement où il y a des activités propres. Ça, tout le monde le reconnaît. La sagesse est contemplative. La contemplation n'est pas le raisonnement. C'est bien évident. Mais est-ce que la contemplation supprime le raisonnement? Ou est-ce que la contemplation va permettre un nouveau raisonnement qui sera
sera la conséquence même de cette contemplation. Grâce à la contemplation, n'y a-t-il pas un développement nouveau? Le propre du sage, c'est d'ordonner. Le sage peut-il ordonner en dehors d'un ordre scientifique? C'est un ordre de sagesse dans sa lumière, mais dans son conditionnement, il reste scientifique. Vous voyez, c'est là le point de vue qui me semble important à souligner et qui me semble quelque chose qu'on doit essayer de comprendre pour bien saisir le point de vue de la science et de la sagesse, le point de vue de la ratio et le point de vue de l'intellectus, le point de vue de la philosophie première et le point de vue de l'éthique. C'est toujours pour mieux saisir ces distinctions fondamentales que nous avons tous saisies plus ou moins. N'est-ce pas ? Mais nous avons souvent saisi un peu de l'extérieur, et quand on les saisit de l'extérieur, alors, je ne dis pas qu'on les oppose, mais on les juxtapose. Juxtaposer ces distinctions les unes à côté des autres ne me fait pas comprendre comment cette distinction fondamentale de ratio et intellectus se retrouve à ce niveau science-sagesse, et se retrouve à ce niveau philosophie première et éthique. Parce que cette distinction fondamentale, elle est fondamentale, donc elle éclaire tout le reste. Elle doit nécessairement se retrouver à travers tout le reste. Or, c'est la distinction, au point de vue critique, de mon conditionnement intellectuel et de ma finalité. Alors, il faut se poser le problème, hein. Il faut se poser la question, je veux dire. Il faut se demander si on peut et jusqu'où on peut faire ces distinctions. Alors, nous allons voir, n'est-ce pas ? Nous allons voir maintenant, pas maintenant puisque ça sonne, mais nous allons voir la fois prochaine le problème de la création au niveau proprement de théologie naturelle. Et alors, au terme, nous comparons avec le développement de saint Thomas pour mieux saisir l'apport de la foi dans la théologie scientifique de saint Thomas. Et comment le philosophe, lui, peut matériellement se poser exactement le même problème, mais pas selon le même ordre.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.